100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
You know I go to school every day. Taking all these tests, I'm getting those A's. Good student.
Bonjour, troubles psychiques, décrochage à l'école et dans les universités européennes. Les conséquences de cette crise sanitaire qui dure se font de plus en plus sentir. En Italie, la plupart des lycéens ont enfin pu retrouver leurs profs et leurs classes ce lundi seulement après des mois d'enseignement à distance. Car après un premier confinement au printemps et de nouvelles restrictions imposées à l'automne, les élèves italiens ont eu quelques mois seulement de cours en présentiel en 2020. Et aujourd'hui encore, plusieurs régions comme les Marches, la Vénétie ou la Calabre ont décidé de maintenir les cours à distance au moins jusqu'au 31 janvier par mesure de sécurité. Et du côté des ONG de protection de l'enfance, on s'inquiète, des dizaines de milliers d'élèves ont abandonné l'école ces derniers mois. Dans un rapport, l'ONG Save the Children tire donc la sonnette d'alarme, Cécile Debarge.
Pour près d'un lycéen italien sur deux, l'année 2020 a été une année gâchée et seul 1 sur 4 pense que tout reviendra comme avant. Ce que met en avant le sondage mené par Ipsos pour l'ONG Save the Children auprès de 1000 lycéens italiens âgés de 14 à 18 ans, c'est un futur où les interactions sociales seront de plus en plus virtuelles. C'est en tout cas ce dont sont convaincus 43% des jeunes sondés, même si 85% d'entre eux affirment que les confinements successifs leur ont fait apprécier plus encore l'importance de sortir de chez soi et de voir ses amis. Le plus gros manque pour les adolescents interrogés, c'est celui de ne pas pouvoir avoir de relations sentimentales au cours de cette période, 63% d'entre eux le déplorent. Pour eux, la faute incombe aux adultes, 2/3 des lycéens estiment qu'ils paient les pots cassés d'une incapacité à gérer la pandémie. Pour l'ONG Save the Children, les conséquences de la fermeture des lycées sur les élèves sont encore gravement sous-estimées, en particulier pour les élèves qui sont le plus en difficulté avec l'enseignement à distance. Dès le premier confinement, professeurs, mais aussi professionnels de l'éducation, mettaient en garde contre le décrochage de certains élèves. L'ISTAT, l'Institut National de Statistique Italien, a en effet estimé à 850 000 le nombre d'élèves qui n'ont chez eux ni ordinateur ni tablette, et à 45,5% la proportion d'élèves touchés par le manque d'équipement informatique de leur famille. Parmi les lycéens interrogés, près d'un tiers déclare qu'au moins un de ses camarades de classe ne suit plus les cours, près d'un quart qu'au moins trois de ses camarades ont décroché. Selon l'ONG, au moins 34 000 jeunes risquent d'abandonner définitivement l'école.
Les élèves craquent, mais les profs aussi. Dans les universités en France, la crise est très palpable avec des cours qui se font à distance depuis fin octobre. Une situation particulièrement compliquée à gérer pour les étudiants, de plus en plus découragés par cet isolement. Une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante révèle ainsi qu'un étudiant sur trois présente des signes de détresse psychologique liés aux contraintes de cette crise sanitaire. Mais situation compliquée aussi pour les enseignants-chercheurs qui se retrouvent surchargés de travail, frustrés et eux aussi très seuls devant leurs ordinateurs. Lise Verbeck leur a tendu le micro.
Bien. Donc, le point où nous étions arrivés...
Depuis la fin du mois d'octobre, c'est à ça que ressemblent les cours d'Alexis Grélois, maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'université de Rouen. Il enseigne donc par visioconférence.
Je fais une pause de 2 secondes pour rebrancher mon ordinateur.
Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ?
Il nous donne rendez-vous dans cette classe virtuelle qu'il utilise désormais au quotidien depuis son domicile parisien.
Alors, ma classe virtuelle, donc c'est le système Big Blue Button qui est utilisé dans pas mal d'universités. Un écran sur lequel je peux télécharger, par exemple, un diaporama, des documents. Alors, la caméra, vous allez voir, ça risque de sauter assez vite parce que les serveurs sont saturés. Généralement, on se passe de la caméra, ce qui est dommage. Certains étudiants peuvent aussi intervenir par leur micro, mais c'est une minorité. La plupart n'ont pas de micro intégré qui fonctionne correctement. Et puis, il y a enfin le chat qui permet de discuter avec les étudiants. Mais c'est assez réduit et assez déshumanisé.
Face à lui, il a donc une multitude de carrés noirs.
Au début du XIIe siècle.
Et pour un enseignant qui, par essence, a l'habitude de se retrouver physiquement avec ses étudiants, c'est très frustrant.
C'est un monologue, donc je suis content quand il y en a un qui intervient le plus souvent par le chat. C'est assez frustrant, on voit pas leur visage, on voit pas leur réaction. On sait pas si c'est passé ou si c'est pas passé. On ne sait pas s'ils sont vraiment en train de suivre le cours ou s'ils sont en train de jouer en ligne ou je ne sais quoi. C'est assez glaçant.
Alexis Grélois est aussi co-directeur du département d'histoire de l'Université de Rouen. En plus de ses cours, des examens à préparer, des copies à corriger, il a aussi cette fonction à assumer dans des conditions particulières.
Je passe l'essentiel de mon temps à gérer soit des questions administratives, parce que malheureusement, la bureaucratie ne s'arrête pas. Par exemple, actuellement, la priorité pour le ministère, c'est que je travaille sur les programmes de la rentrée 2022. Donc la priorité absolue de la bureaucratie, c'est ça. Et le calendrier bureaucratique n'a absolument pas changé. Donc ça me bouffe une grande partie de mon temps. Et puis le reste du temps, ce qui a été très difficile à gérer, ce sont les relations entre collègues. Pendant le premier confinement, on s'était serré les coudes. Là, avec le deuxième confinement, les tensions sont beaucoup plus palpables.
Des tensions dues à la fatigue avec la surcharge de travail ou encore à cause de la communication rendue compliquée par la distance notamment. Face à la difficulté des enseignants, l'université de Rennes 1 a, elle, décidé de recruter une psychologue du travail, recrutement qui est en cours, Bruno Bureau, professeur en chimie et vice-président en charge des ressources humaines.
On a fait tout un questionnaire qu'on a diffusé. On a eu pas mal de réponses, de mémoire comme ça, je vous dis à peu près 1500 réponses peut-être, avec évidemment des réponses qu'on attendait en partie, hein, sur le télétravail, sur les besoins de soutien psychologique. Très clairement, dans les réponses au questionnaire, c'était vraiment une demande forte. Et puis c'est la médecine du travail aussi qui nous a remonté aussi ce besoin, hein, puisque à travers les visites qu'ils ont pu avoir, ils se sont aperçus qu'il y avait un vrai besoin pour un soutien psychologique.
À la frustration de ne pas pouvoir enseigner normalement, s'ajoute celle de ne plus faire de la recherche dans de bonnes conditions.
Chères étudiantes et chers étudiants, bonjour. Nous voici arrivés au 10e cours.
David Bellamy est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université d'Amiens. Lui aussi enseigne depuis fin octobre en visioconférence.
Vous avez courageusement tenu jusqu'alors et je veux vous féliciter pour cela et vous demander de faire encore un effort.
Il a dû réadapter ses cours et ses examens et c'est autant de temps passé en moins à faire de la recherche.
Depuis le début du mois de septembre, pour pouvoir continuer à faire de la recherche, parce que c'est absolument nécessaire pour répondre aux exigences de notre métier, eh bien, nous avons utilisé notre temps de soirée, notre temps de loisirs et notre temps de vacances au moment de la Toussaint et au moment de Noël pour tâcher de rester aussi au niveau intellectuel qui est exigé de nous.
La crise liée au Covid a aussi accentué, selon lui, la crise structurelle qui touche les universités depuis des décennies.
Au niveau de l'État central, il y a un choix qui a été fait, qui est un choix de réduction des budgets d'université, de réduction de l'investissement sur le budget de la recherche et de l'enseignement universitaire, si bien que les dommages que nous subissons, essentiellement en termes de manque de postes pour encadrer les étudiants, se sont gravement accrus depuis la crise épidémique, puisque nous devons accorder encore plus d'attention à chaque étudiant et nous ne sommes pas plus nombreux pour cela. Donc nous avons dû recruter des vacataires que nous devons former nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons aussi du temps à donner pour la formation de ces vacataires parce que nous manquons de collègues. Dans ma faculté d'histoire et de géographie, c'est pas loin d'une demi-douzaine de postes comme cela qui manquent.
Et ce manque de postes se retrouve dans beaucoup d'autres universités. Une intersyndicale appelle d'ailleurs à une grève nationale fin janvier pour réclamer davantage de moyens, une amélioration des conditions de travail, mais aussi la réouverture des universités.
En Espagne, l'épidémie de Covid-19 qui malmène toujours le pays n'a pas empêché le gouvernement d'adopter une réforme du système éducatif. Vivement critiquée par l'opposition et par certaines familles, cette nouvelle loi vise à donner plus de moyens au secteur public et plus de mixité sociale, notamment dans les établissements privés. Ils sont 30% dans le pays et vont être obligés d'accueillir davantage d'élèves à faibles ressources. Adoptée de justesse en novembre, la loi entrera en vigueur dès lundi prochain. Mais la polémique gronde toujours, Diane Cambon.
Ils étaient des milliers fin décembre, parents et professeurs de l'enseignement privé, à défiler à bord de leur voiture dans plusieurs villes d'Espagne pour s'opposer à la réforme de la loi sur l'éducation. Une loi qui, selon eux, permet à l'administration d'imposer la répartition des élèves dans les centres scolaires.
On veut pouvoir avoir la liberté de choisir la meilleure école pour nos enfants.
C'est pour ça que nous sommes les parents, non ?
Pouvoir choisir son école est le principal argument que mettent en avant les centres concertados, les centres scolaires privés qui reçoivent des subventions de l'État. Ils représentent 30% des écoles en Espagne. Lauro Martín est directeur du collège privé catholique des Salésiens à Salamanque et encourage les parents à s'opposer à cette nouvelle loi.
Bien que la loi ne le dise pas clairement, on peut lire entre les lignes du texte que l'administration peut décider de qui va pouvoir s'inscrire ou pas dans une école privée, indépendamment de si on a de la place ou pas, et cela ne nous semble pas juste.
Ces arguments font bondir les défenseurs de l'école publique. Pedro est professeur de lettres dans un lycée public de Madrid. Dans un café de la capitale, il nous explique pourquoi cet argumentaire lui semble fallacieux.
C'est un mensonge, c'est faux ce qu'ils disent. Ce qui va changer la loi, c'est qu'elle ne va plus permettre aux établissements privés de se remplir les poches. Elle va les obliger à accepter tout type d'élèves, comme ceux qui présentent un handicap.
En clair, les centres éducatifs privés ne pourront plus recevoir des dons privés de la part des familles à travers ce qu'on appelle des subventions volontaires. L'argent public leur sera également versé selon certaines conditions, comme l'explique le professeur Pedro.
Il n'y aura plus de financement public pour ceux qui pratiquent la ségrégation, comme les écoles non mixtes avec d'un côté les filles et de l'autre les garçons. Les fonds publics doivent aller en faveur de l'égalité.
Autre modification qui fait grincer des dents les écoles privées, celle relative à l'enseignement des cours de religion. Cette matière redevient optionnelle, la note ne comptant plus pour obtenir une bourse ou pour l'examen final. Pour cet enseignant du public, toute cette polémique met dans l'ombre les aspects les plus importants de la loi, comme celui d'élever le niveau scolaire en réduisant par exemple le nombre de redoublements. Un élève sur trois a redoublé au cours de sa scolarité, soit un des taux les plus élevés selon l'OCDE.
L'objectif est que tous les élèves terminent le premier cycle avec un diplôme et que ceux qui ont des difficultés scolaires reçoivent un soutien spécifique avec des cours supplémentaires et ainsi éviter le décrochage scolaire trop tôt.
Offrir un meilleur enseignement passera également par une enveloppe financière plus généreuse de 5,4 milliards d'euros, soit 70% en plus pour l'éducation nationale dans le budget de cette année. La formation des professeurs va être renforcée et le nombre de postes devrait être augmenté, mais uniquement dans le réseau d'établissements publics, ce qui provoque la colère du secteur privé.
En Pologne aussi, l'enseignement de la religion est en crise, mais dans les écoles publiques, ces cours dispensés par des membres du clergé ou des laïcs sont financés par l'État, mais avec des professeurs et un programme souvent très conservateur choisi par l'Église catholique. Ils sont donc de plus en plus critiqués par des parents d'élèves qui appellent à une école laïque. Les précisions à Varsovie de notre correspondante Sarah Bakaloglou.
Ces cours de religion dans les écoles publiques polonaises ont été instaurés en 1991, à la fin de la période communiste, pendant laquelle l'Église avait été un véritable symbole de résistance contre le régime et un soutien à la population. À ce moment-là, selon un sondage, 81% des parents acceptent que leurs enfants suivent ces cours organisés par l'Église catholique, un chiffre en baisse progressivement au fil des années. Car si les jeunes sont moins croyants que leurs aînés, si la confiance en l'Église catholique ne cesse de chuter en Pologne, l'existence même de ces cours est aussi critiquée. En théorie, ils ne sont pas obligatoires, mais les élèves y sont inscrits par défaut. Il faut donc faire une demande à la direction de l'école pour ne pas y assister. En théorie toujours, l'école doit proposer un cours alternatif intitulé « Éthique », mais dans les faits, il n'y a pas toujours de professeur pour l'enseigner. De plus, dans les petites villes où le poids de la paroisse est fort, les parents sont confrontés à une pression sociale. Interrogés, plusieurs élèves décrivent des cours souvent enseignés par des religieux ou laïcs austères et très conservateurs, même si ce n'est pas toujours le cas. Une jeune femme raconte par exemple avoir appris que la contraception était le pire des péchés. D'autres étudiants rappellent avoir été choqués lorsqu'on leur a enseigné que les animaux n'avaient pas d'âme. Si le programme est choisi par l'Église, les cours de religion catholique sont eux financés par l'État et par les impôts des Polonais, ce qui représente un budget d'environ 330 millions d'euros par an. Des initiatives pour une école laïque ont donc émergé ces dernières années pour demander que les cours de religion aient lieu à l'Église et non pas à l'école, en soulignant qu'il y a par exemple plus d'heures de cours de religion au lycée que d'heures de physique-chimie.
En Bosnie-Herzégovine, plus besoin de faire des études pour obtenir un diplôme. Pour décrocher un master, voire un doctorat, il suffit de payer. Délivrés par des universités privées qui poussent comme des champignons, ces diplômes n'ont aucune valeur, mais n'empêche, la promesse d'une équivalence obtenue à l'étranger continue d'alimenter leur succès. Et c'est un nouveau signe de la corruption qui gangrène ce pays des Balkans. Simon Rico.
Pour obtenir vite et facilement un diplôme de l'enseignement supérieur en Bosnie-Herzégovine, il suffit de fouiner sur Internet ou dans les journaux parmi les petites annonces. De nombreux professionnels expérimentés comme ils se présentent proposent leurs services rédactionnels avec différents tarifs suivant la prestation. 8 euros pour un devoir, 150 euros pour un dossier, 1000 euros pour un mémoire de master et 2500 euros pour une thèse de doctorat. Les étudiants qui recourent à ces services sont tous inscrits dans l'une des 37 universités privées que compte la Bosnie-Herzégovine, soit une pour 100 000 habitants, c'est 4 fois plus que le nombre d'établissements publics. Pour les professeurs recrutés, aucune présence ne serait demandée, le plus important restant de signer les livrets scolaires à chaque fin de semestre. Certaines de ces universités soulouent même une partie de leurs locaux pour d'autres activités, des séminaires, des réceptions ou encore des fêtes de mariage. Une situation ahurissante qui s'explique notamment par le fait qu'à cause du système institutionnel ultra décentralisé pour limiter le pouvoir du gouvernement central, la Bosnie-Herzégovine est l'un des rares pays au monde à ne pas disposer de ministère de l'éducation à l'échelle nationale. Hors de tout contrôle et pour la plupart non reconnu, ces universités privées tirent leur légitimité du fait que de nombreux élus qui se partagent le millefeuille politico-administratif bosnien en ont été diplômés, mais après avoir été nommés. Et dans une Bosnie-Herzégovine où le chômage touche plus de 4 jeunes sur 10, les inscriptions continuent d'affluer avec l'hypothétique espoir que ces diplômes délivrés favoriseront une embauche. Malgré les déconvenues qui se multiplient, notamment quand les étudiants tentent de faire valoir leur diplôme pour partir en Erasmus. Comme le résument certains intellectuels bosniens désabusés, les autorités ici ont même réussi à transformer l'éducation en une farce où les diplômes s'achètent à coups de billets.
Musique.
C'est l'heure. Musique. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Léa Lisa.
Vous nous faites découvrir aujourd'hui le dernier album de Paul McCartney, conçu et enregistré à 78 ans.
Encore un disque de confinement aujourd'hui, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du nouvel album de Paul McCartney, publié fin décembre pour clore une année pas comme les autres. Au printemps, l'ex-Beatles a dû troquer une tournée mondiale contre un isolement dans sa ferme du Sussex. C'est là qu'il enregistre le troisième volet d'une trilogie solo, entamée en 1970, où il joue de tous les instruments et assure lui-même la réalisation des chansons. Celles du bien nommé McCartney 3 sont guidées par une énergie, une spontanéité et une qualité d'écriture épatante pour un jeune homme de 78 ans.
Tomorrow, many choices to make, many chains to unravel. Every path that we take makes it harder to travel. Laughter turned to sorrow, doesn't get me down.
C'était Paul McCartney et ce morceau Women and Wives sur RFI. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Pour nous retrouver partout et à toute heure, rendez-vous sur notre site rfi.fr ou via notre podcast sur votre plateforme d'écoute. Excellent week-end, à lundi.